Voilà, la graisse, c'est pas mal. Mais encore, faut-il arriver à la réactiver. Bah, faut pas laisser le feu s'éteindre. Bah, voilà. Donc, il faut un peu recharger, si je puis dire. Et pour cela, nous avons l'Écriture, la Bible, le témoignage de l'Écriture qui est là pour nous faire vivre, nous rappeler sans cesse qu'il y a une action de Dieu dans le monde et pour chacun et chacune d'entre nous, évidemment. Alors, je vous invite à prier Dieu pour que l'Esprit puisse là pour être là pour nous faire réaliser toute la portée des paroles que nous allons partager. Oui, Père, nous voudrions d'abord te rendre grâce et te remercier effectivement pour le pardon, pour ta présence au cœur même de nos vies et pour que par la puissance de l'Esprit, que cet Esprit Saint puisse nous éclairer, nous faire vivre et nous faire réaliser que dans la Bible, il y a un témoignage formidable d'espérance et de joie. Ouvre nos cœurs à ce témoignage, Père. Amen. Voilà, et donc, je vous invite à prendre dans le Siracide, ce sont les textes de deutérocanoniques. Hein. Alors, s'il y a des catholiques dans la pièce, ils vont être contents parce qu'ils sont dans la Bible catholique, mais pas dans les Bibles protestantes. Voilà. Il y a comme ça des choses donc, qui sont un petit peu inexplicables et inexpliquées. Je ne sais pas très bien, c'est comme ça. Mais dans la traduction œcuménique, ils y sont. Donc, je vous invite à entendre un passage du Siracide au chapitre 18, les versets 8 à 14. Qu'est-ce que l'homme? À quoi sert-il? Que signifie le bien ou le mal qu'il fait? Le nombre de ses jours est grand, s'il atteint 100 ans. Une goutte d'eau de la mer, un grain de sable, telles sont ces quelques années face à l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur est patient à l'égard des hommes et déverse sur eux sa pitié. Il voit, il sait combien leur fin est misérable et c'est pourquoi il multiplie son pardon. L'homme a pitié de son prochain, mais le Seigneur a pitié de toute créature. Il reprend, il instruit, il enseigne, il ramène, tel le berger, son troupeau. Il a pitié de ceux qui acceptent l'instruction et de ceux qui recherchent avec empressement ses jugements. Et puis en écho, si vous le connaissez, je sais que vous le connaissez, vous ne serez pas surpris d'entendre le psaume 8. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre, mieux que les cieux, elle chante ta splendeur. Par la bouche des tout-petits, des nourrissons, tu as fondé une forteresse contre tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi revanchard. Quand je vois tes cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce donc l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain, pour que tu t'en soucies? Tu en as presque fait un Dieu. Tu le couronnes de gloire et d'éclat. Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui court les sentiers des mers. Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique par toute la terre. Vous l'avez reconnu? Bon, il n'y a pas beaucoup d'écho. Hein. Alors, ce troisième texte, celui-là, vous le connaissez. C'est la Genèse au chapitre 11, des versets 1 à 9. La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Or, en se plaçant vers l'Orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Shinéar. Ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, moulons des briques, cuisons-les au four. Les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. Allons, dirent-ils, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. Eh bien, dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projettent de faire ne leur sera inaccessible. Allons, descendons, brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Au-delà, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre, ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, et c'est là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà l'homme qui est si peu de choses et qui fait que le psalmiste se pose la question de savoir pourquoi Dieu s'intéresse à lui, en gros. C'est un peu la même chose pour celui qui, bien après, a écrit le Siracide, quelques dizaines d'années avant que Jésus-Christ ne vienne nous rendre visite, si je puis dire. L'homme, l'être humain, c'est quand même une énigme, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est quand même un être qui est un être d'ambiguïté, un être qui est limité dans tous les domaines, à peu près, dire qu'il est un champion en rien, même s'il y a des Jeux Olympiques, mais enfin, ça reste entre nous, dire, mais tant qu'on ne fait pas la course quoi, avec une panthère ou quelque chose comme ça, on peut avoir des chances de gagner, enfin voilà. Mais pour le reste, on n'est vraiment pas très doué. Mais il se trouve finalement que cet être humain, il est quand même, par son esprit créateur, il est rêveur, il est imaginatif, et évidemment, et puis il y a cette intelligence extraordinaire qu'il porte en lui avec ce cerveau qui fait de lui une grosse tête, dire un être quand même un peu difforme si on y regarde d'un peu près. Et on est tellement habitué à se voir qu'on ne s'en rend pas compte, mais on est quand même avec une tête colossale. Et imaginez un éléphant avec une tête en proportion aussi grosse que celle d'un homme, vous aurez un truc. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, nous sommes un peu comme Janus, le mois de janvier dont je parlais dans le journal, dire, mais dans tous les cas, on a à la fois un côté positif, un côté négatif, ça c'est, on le sait, etc. On est capable de nous entraider de manière extraordinaire, et ça depuis la préhistoire, puisqu'on a trouvé des restes d'êtres humains de la préhistoire qui avaient des handicaps tels qu'ils n'auraient jamais pu vivre s'ils n'avaient pas été pris en charge par le clan, le groupe dans lequel ils étaient, d'une part, mais d'un autre côté, on est capable d'inventer la bombe atomique et des armes bactériochimiques, donc des choses qui sont monstrueuses, finalement. Voilà, donc c'est l'être humain qui est ainsi. Alors, l'être humain, dans ses faiblesses, il cherche à s'en sortir, évidemment. C'est peut-être à partir de là que peuvent surgir un certain nombre de problèmes. Mais dans tous les cas, il y a la communauté. La communauté est intéressante pour l'être humain parce qu'elle permet les complémentarités, évidemment, permet l'entraide, voilà, aussi, mais elle permet aussi le rêve. Le rêve d'être un peu plus, un peu plus grand, un peu plus fort, un peu plus nombreux, de se faire un nom, de laisser quelque chose, finalement. On aimerait bien que nos vies ne passent pas comme cela et ne retombent dans l'oubli, évidemment. Se faire un nom. Laisser quelque chose, un souvenir ou une trace. Les cimetières sont pleins de traces, comme ça. D'ailleurs, quand je faisais visiter le Père Lachaise, c'était toujours, et je suis d'ailleurs toujours étonné, de voir ces tombes extraordinaires de personnages si célèbres qui vous regardent avec leur buste comme ça, d'un air de dire « Formidable, ils ont toutes leurs médailles, un tas de trucs. » Mais enfin, on ne sait plus du tout qui c'est, d'ailleurs. Dire, et de toutes les manières, leur nom est complètement tombé dans l'oubli, finalement. Tout ça représente une vacuité, un vide, une vanité, quelque chose d'extraordinaire, finalement. L'art aussi procède un petit peu de cette manière de faire, les gens qui veulent laisser quelque chose. Alors, c'est déjà plus sympa. Un tableau de Claude Monet, par exemple, c'est plus sympa qu'un cimetière, c'est évident. Je veux dire, ou une sonate de Bach, évidemment, là aussi, il n'y a pas de comparaison. Mais c'est vrai qu'on a envie de laisser quelque chose. Et c'est intéressant de voir aussi comment les gens qui sont puissants veulent laisser un nom. Certains veulent laisser un musée, je veux dire un musée des arts premiers, par exemple, comme certains présidents de la République. Je veux dire, mais il y en a d'autres qui veulent laisser des œuvres, une tour, ou que sais-je encore, ou un barrage, voilà, ou un souvenir dans l'histoire, partir à la conquête du monde. Voilà. C'est intéressant de voir tout ça, mais tout ça a quand même quelque chose d'assez pitoyable, de ridicule et de dérisoire, de voir des gens qui veulent s'agiter comme cela, qui bougent, pour véritablement se faire un nom, se faire un nom. Et ils sont entre eux pour se faire un nom. C'est ce que dit la Bible. Ils sont entre eux. Les on-dit, les cafés du commerce, les fake news, tout cela, ils sont entre eux. C'est assez intéressant cette réflexion. Parce qu'en étant entre nous, on ne sort pas de nous. C'est un peu le problème. Quand on reste entre nous, on ne rencontre pas le monde automatiquement. On ressasse nos idées, nos fantasmes, des choses comme ça. Mais ça ne va pas plus loin finalement. S'il n'y a pas une contradiction quelque part, par exemple, quelque chose qui vient d'ailleurs pour remettre en cause, pour dire attention, ou je ne sais pas très bien. Voilà. Alors entre nous, on va chercher. On cherche et très souvent la puissance et la gloire sont là. Avec les premières richesses que les hommes ont accumulées, ils ont créé les villes. Ils ont créé les villes pour lutter contre la peur qu'ils avaient, la peur des autres, la peur des voleurs, des pillards, des choses comme ça. Il y a aussi l'instinct grégaire, parce que l'être humain reste quand même très marqué par son origine animale. Dire. Et puis, il y a cette peur, ces questions qui sont là, qui fait que on sent bien qu'il y a des forces qui nous dépassent, et il y a ces dieux qui sont là. Et donc, on va construire des temples. On va construire des temples, et je crois que c'est intéressant de voir que, autant qu'on sache, évidemment, parce que l'archéologie change très souvent, mais les toutes premières constructions importantes, ce sont des temples, hein, dont on a trouvé les restes dans le sud de la Turquie. Voilà, des temples qui remontent à 10 000, 12 000 ans avant Jésus-Christ, des constructions colossales. On se demande comment ces hommes du néolithique ont fait pour transporter des blocs de pierre énormes qui venaient de plusieurs dizaines de kilomètres du site où ils ont construit leur temple. Puis ils ont construit des villes autour, etc. Puis ils ont construit ces tours, ces ziggourats, ces tours à étages, hein, comme la tour de Babel, évidemment, dont parle la Bible. Ils l'ont toujours fait. En écrivant ces lignes, je pensais à ces villes d'Italie du Nord, vous savez, ces villes médiévales d'Italie du Nord, où les grandes familles bourgeoises de ces villes construisaient des tours, des grandes tours. Et celui qui avait la tour la plus haute avait le plus grand prestige. Et voilà. On trouve ça dans les rues des villages lorrains. Vous savez, les villages lorrains ont des rues extrêmement larges, très très larges, parce que les paysans autrefois mettaient leur fumier devant la maison. Hein, ils mettaient leur fumier devant la maison, et plus le fumier était gros, plus ça voulait dire que le troupeau était important, donc que la famille était riche. Voyez, où va se nicher finalement notre orgueil? Dans du fumier. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est une belle leçon. Mais dans tous les cas, les beffrois des villes, les flèches des cathédrales, on s'enorgueille d'avoir la plus haute. En France, c'est Amiens, je vous le dis. Mais voilà, les hommes sont comme ça. Leur orgueil est vraiment assez fantastique, finalement. Mais ils ont toujours allé... Ils ont toujours voulu chercher des hauts lieux. Ils ont voulu chercher quelque chose avec ce mystère qui les déplace. Ils ont voulu faire une alliance avec ces forces obscures qui sont là, pour se les approprier, pour les mettre de leur côté. Là aussi, alors là, dès la préhistoire, on a des hauts lieux, les sommets de collines, les sommets de montagnes qui ont été visités par les premiers hommes et où ils ont sans doute vécu quelque chose de leur religion. J'en connais un certain nombre, c'est pas très très connu pour l'instant, mais ça sera un jour reconnu certainement. Voilà. Et dans tous les cas, monter vers les dieux, vers le dieu, hein, c'est quelque chose que les hommes veulent pouvoir faire, rencontrer Dieu finalement, hein, pour se mettre en accord avec lui finalement, lui offrir ce qu'on lui doit finalement et recevoir de lui en échange ce qu'il peut nous donner. Alors du coup, les temples, effectivement, sont parmi les premières œuvres des hommes, comme le constate la Bible, là, et ces ziggourats sont là. Lorsqu'il y a des montagnes, on a les hauts lieux, c'est naturel, ça pose pas de problème. Lorsqu'on est dans des plaines, comme dans la plaine de la Mésopotamie, de l'Irak actuel, eh bien, on va construire des collines artificielles, ce sont ces fameux ziggourats, ces pyramides à étages, comme on en voit là aussi, pour les mêmes raisons, sur le plateau du Yucatan, par exemple, dans l'Amérique centrale, c'est-à-dire où les précolombiens ont construit là aussi, sur ces plateaux qui sont évidemment plats, comme le nom l'indique, des collines artificielles, des ziggourats, qui sont tout aussi impressionnantes que celles de la Mésopotamie. Les premières œuvres, ces œuvres colossales, magnifiques, mais qui pose quelques problèmes, parce que c'est la confusion. C'est la confusion, en fait. En voulant s'unir comme ça, pour être surpuissant, eh bien, les hommes sont dans l'indifférencié. Ils peuvent tout faire, finalement, peuvent mettre leur puissance, leur intelligence au service d'un tas de choses, mais ils sont piégés par le mal. Dans l'histoire de Babel, eh bien, il n'y a qu'une seule langue, il est dit, pour être au service de cette puissance. Une seule langue, une seule culture, donc, car la langue n'est jamais que l'expression de la culture, finalement, d'un peuple. Alors c'est très commode d'avoir une langue. On le sait, d'ailleurs, au Moyen-Âge, les étudiants parlaient latin, ils allaient d'une faculté à une autre, en passant des frontières d'un pays à un autre. Ils pouvaient aller de la faculté de Montpellier à une faculté à Paris ou en Allemagne ou en Angleterre, enfin bref, sans que ça pose de problème, ils parlaient tous le latin. Aujourd'hui, on parle tous l'anglais, je veux dire, on peut aller dans un pays étranger, n'importe lequel, eh bien, avec un petit peu d'anglais, on arrive à se faire connaître, à se faire reconnaître et à se diriger sans trop de problèmes. Donc c'est bien commode, une seule langue, évidemment. Mais le problème, c'est que ça veut dire qu'effectivement, il n'y a qu'une seule culture, ou une culture dominante, qui finit par écraser les autres. J'ai trouvé pitoyable, lorsque j'ai fait le tour de la Méditerranée dans différents pays, de voir que les grandes surfaces étaient les mêmes que chez moi, avec exactement les mêmes dispositions, qui sont étudiées de la même manière. Je l'ai étudié moi-même en sciences économiques, c'est-à-dire que ce sont des pièges à consommation extraordinaires. Mais j'ai trouvé ça dans tous les pays que j'ai rencontrés, je veux dire autour de la Méditerranée, c'est-à-dire de la Jordanie à l'Italie. En revanche, j'étais émerveillé des souks que j'ai pu fréquenter, bien sûr, que ce soit à Damas, à Alep, que ce soit en Turquie ou ailleurs, ou des petits marchés de Sicile. Évidemment, on est très loin de tout ça, mais là, on est dans des dialectes locaux, on est dans des cultures locales. On n'est pas dans cette uniformité de la puissance, de la richesse, finalement, de la monotonie et de l'ennui, qui est vraiment quelque chose d'assez terrible. Alors, Babel. En général, les exégètes, quand ils arrivent à l'explication de cette histoire de la tour de Babel, disent c'est une punition que Dieu envoie aux hommes, ils vont être dispersés, et voilà. Voilà. C'est une malédiction. Or, moi, je dis que la malédiction, ce sont les hommes qui se l'infligent par leur orgueil, par leur volonté de puissance, par leur volonté de domination, c'est-à-dire qui fait qu'on arrive à des civilisations mondiales où il n'y a que de l'ennui, de la répétition et du mépris, finalement, du mépris pour les autres et pour la nature. Ouais, les hommes sont pécheurs. Ils ont rompu leur relation à Dieu. Ils ont voulu, par leur propre puissance, accéder à Dieu, tout seul. Ils ont conçu ces tours, comme nous concevons, nous aussi, nos cultures, nos civilisations, qui sont fondées sur des sociétés colossales aujourd'hui, qui brassent des milliards et des milliards de dollars pour imposer leur vue. Alors, quand je lis la tour de Babel, je pense que la vraie bénédiction, c'est la dispersion, précisément. Le fait que les hommes soient séparés. Séparés, c'est une bénédiction. Lorsque Dieu crée le monde, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les catéchumènes, à propos du Père créateur, etc. Lorsque Dieu crée le monde, nous dit la Genèse, il appelle, Dieu dit et les choses apparaissent. Et Dieu dit à partir du tohu-bohu, à partir de l'indéfini, à partir de la mélasse, ce qu'on veut dire. Et donc, il appelle et toc, les choses adviennent. La parole fait vivre, elle sépare, elle identifie. La tour de Babel, c'est une recréation. Les hommes, par leur volonté de puissance, ils ont détruit la création. Ils ont fait une masse informe de puissance, d'orgueil, tout ce qu'on veut. Et Dieu va faire éclater cette masse et va à nouveau recréer l'humanité. Il trouve que si ce texte de la tour de Babel est inséré, de manière assez curieuse d'ailleurs, c'est pas très bien d'où ça vient ce texte, hein, mais s'il est inséré ainsi dans ce qu'on appelle la table des peuples, à partir de Sem, le fils de Noé, hein, jusqu'à Abraham, il y a toute la liste des peuples, là, et paf, au milieu, il y a la tour de Babel. Et je crois que si ce texte est là, c'est bien pour dire au peuple, et à tous ceux qui vont lire après la Bible, dire attention, restez finalement dans cet acte créateur qui fait que les êtres humains sont différents les uns les autres, que les cultures sont différentes les unes des autres. Parce que quand on rencontre les autres, certes on a du mal à se comprendre, certes il faut abandonner une partie de ses certitudes, de sa puissance, il faut apprendre à partager, apprendre à recevoir des autres, apprendre à donner aux autres, etc. C'est tout l'échange qui peut avoir lieu, c'est toute la richesse qui va s'exprimer dans ces échanges. C'est pour ça que je pense que ce qu'on voit souvent comme la malédiction que Dieu impose aux hommes à travers cette dispersion et ces langues multiples et variées, ce que signifie Babel, enfin par des jeux de mots en hébreu, mais qui signifie Babylou en sémite, la porte des dieux, aussi à même de cette double étymologie, je veux dire, je pense que c'est vraiment une bénédiction que d'avoir ainsi fait éclater cette bulle, si je puis dire, que les hommes avaient construite. Ah, vous me direz, certes, les hommes sont ainsi recréés par cette tour de Babel. Vous savez, quand même, on est dans la Genèse, on est dans la création, et la recréation après le déluge, et ainsi de suite. Hein. Enfin bref, et donc il y a toute cette idée d'un Dieu qui est créateur et recréateur sans cesse dans ces pages de la Genèse. C'est vrai que le mal subsiste malgré tout. C'est vrai que le mal subsiste malgré tout, il y a toujours des violences. Il y a du racisme qui continue, l'impérialisme, je veux dire, catastrophique, l'impérialisme de toutes les puissances, qu'elles soient grandes ou petites, les grandes l'appliquent et les petites en rêvent, évidemment, et les moyennes essaient de gagner quelques places de plus, etc. Il y a la peur des autres. Il y a les injustices qui sont là, qui s'étalent partout dans le monde. Je veux dire, il y a des choses qui se passent qui sont quand même inadmissibles dans ce monde, dans l'exploitation des autres, l'exploitation de la nature. Il y a cette question dont on parlera dans nos conférences là de janvier-février sur les dépassements des limites par des philosophies qui utilisent la technoscience pour poser un être humain qui se prend pour Dieu finalement. Et c'est un peu la tour de Babel qu'on retrouve dans ce genre de truc qui revient toujours. Le mal est toujours là malgré ce que Dieu a pu faire pour créer, recréer l'être humain est toujours là. Mais, heureusement, il y a l'espérance, sinon je ne serais pas pasteur et je ne vous prêcherais pas que le mal est là et qu'il triomphe. Non, évidemment, il y a l'espérance qui est là malgré tout. Car l'homme, c'est une conscience. C'est une conscience qui se saisit du passé, véritablement, pour prendre un certain temps, une certaine durée de réflexion pour se projeter dans l'avenir. Il est capable d'évaluer ainsi, par son intelligence et sa conscience. Je veux dire, c'est Bergson qui va développer, par exemple, tout cela dans ses manières de voir l'être humain. Il y a cette conscience de l'homme qui fait que l'homme est un être quand même à part. Il y a cette liberté qu'il a aussi, la liberté de pouvoir renoncer à ce qui pour lui est véritablement évident, on dit parfois, mais dont il voit l'utilité du renoncement. Parce que s'il n'y a pas ce renoncement, il n'y a plus de vie possible à un horizon proche ou lointain. Il y a ces plénitudes aussi que l'homme recherche dans la contemplation, dans la réflexion. Et puis il y a toutes ces rencontres avec ce qui nous dépasse complètement, avec le Christ éternel finalement, qu'on peut retrouver dans n'importe quel élément de la vie finalement, lorsque la vie est porteuse de vie, d'un un peu plus finalement, d'un émerveillement. Tout à l'heure, on parlait avec les catéchumènes de ces manières de voir Dieu dans la contemplation, dans la rencontre avec quelqu'un, dans le fait d'être aimé, d'aimer, de bâtir la vie de quelqu'un finalement, ou d'un autre groupe. Il y a tout cela dans l'être humain. Alors je me dis, la tour, la ziggourate, qu'est-ce que ça doit être finalement ? Je me dis que la tour, le vrai temple de l'humanité, eh bien c'est l'humanité elle-même. Je crois que l'homme est le temple de Dieu. Parce que l'homme, même s'il y a l'équivalent des briques et du bitume en lui, il y a l'esprit. Il y a l'esprit qui a été déposé en lui par l'amour de Dieu. Cet esprit qui fait que, même si les autres parlent une autre langue, servant une autre culture que la mienne, je peux le comprendre précisément. Parce que cet esprit que Dieu dépose en nous, tel que les prophètes l'annoncent, les psaumes le disent, ou le Siracide, et surtout Jésus-Christ et les apôtres, bien c'est ce qui nous parle d'amour finalement, et nous donne, au-delà des particularismes et des richesses locales, quelque chose de commun qui nous permet de vivre la dimension du royaume un petit peu à l'avance. Chaque fois que nous vivons d'un peu d'amour, de joie, chaque fois que nous saisissons la dignité ici et la plénitude aussi. Amen.